du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Retour dans ce numéro 604 du Coq à l'âne, toujours en direct bien sûr de Briançon, chez notre ami Jean-Michel Tirole, au relais d'Alsace, avec notre invité Guillaume Le Bigot et Jean-Paul Grolier et Philippe Stockley. Philippe, on va parler emploi.
Oui, emploi, économie, ça fait trois émissions qu'on fait en Briançon, j'ai l'impression que je répète toujours la même chose, mais c'est pour vous dire combien ça me tient un peu, plus ou moins beaucoup à cœur.
Ben oui.
C'est que ben, je m'investis aussi dans le secteur économique. Guillaume, qui est à mes côtés, patron des Chalets Bérou, beaucoup plus. Et il y a quand même, je reviens sur le sujet de l'emploi dans les Hautes-Alpes. J'ai lu récemment, quelqu'un a dit de la Chambre de commerce, qu'il y avait 7000 demandeurs d'emploi dans les Hautes-Alpes et qu'il y avait 90% des entreprises ou alpines qui ne trouvaient pas le personnel qu'ils ont envie de trouver. Donc je voulais poser la question à Guillaume, qui a une boîte importante,
oui,
très spécialisée, donc qui a besoin de main-d'œuvre spécialisée.
Mais pas que, je suppose, mais il doit y en avoir.
Il va nous le dire. Mmh. Et qui aussi s'est délocalisé, j'ai envie de dire, à Megève. Et je voulais qu'il nous donne son avis sur ce problème de l'emploi, sur le fait qu'on ne puisse pas trouver de personnel, alors que le potentiel, j'ai envie de dire, humain, il est là, il existe, et que je me repose la question pour la troisième fois, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, ouais, pour motiver tout ça.
Il y a peut-être 7000 chômeurs dans les Hautes-Alpes, mais il y a au moins autant d'emplois non pourvus. Hein, vous allez en face chez Axum, là, ils recherchent 400 personnes en ce moment. Aujourd'hui, on a des emplois spécifiques, mais de toute manière, quand vous recherchez un manœuvre, vous faites une recherche nationale, vous ne trouvez personne. Ouais. Pour moi, c'est le plus gros problème de la France, parmi tous les pays d'Europe, qui, eux, ont avancé sur ce sujet. Macron, il faudra bien qu'il fasse quelque chose, parce qu'il y a quand même une partie des gens qui ont voté pour lui pour ça. Et si on ne met pas les Français au boulot, on ne va pas y arriver. Voilà. Nous, on recherche tout le temps du monde, on ne trouve personne. Depuis 2 ans, les 2 dernières personnes qu'on a embauchées et qu'on a formées, c'est 2 migrants. Voilà. Alors, c'est peut-être la solution. Nous, moi, je fais partie des compagnons, on l'a fait à Paris. On a monté deux écoles de couverture, 48 migrants, parce qu'il y a beaucoup de demande de couvreurs à Paris, c'est un très beau métier surtout, avec des très belles toitures à Paris. Les restaurateurs ont fait de même. Donc aujourd'hui, si ça permet d'intégrer ces jeunes-là, très bien. De toute manière, les jeunes français veulent pas travailler, et ceux qui sont moins jeunes, ils gagnent presque plus d'argent à pas travailler qu'à travailler.
Tu sais que tu vas te faire des super coupes, hein,
mais
discours, là.
C'est mon discours, tout le monde le connaît. Je veux dire,
pour ça.
Personne ne trouve de aujourd'hui, on met des annonces, la NPE, j'en parle même pas, ça sert à rien. On travaille avec les boîtes d'intérim, et on ne trouve personne. Alors après, quand vous trouvez des fois, bah, ça dure 2-3 jours, après ils sont pas motivés. Pour moi, c'est pas une histoire de motivation. Si vous expliquez aux jeunes que quand ils vont travailler, ils vont être payés, mais si vous leur expliquez qu'en travaillant pas, ils seront presque payés pareil, et puis en plus ils vont travailler un peu à côté, et puis en plus ils vont avoir des aides, aujourd'hui, le gars qui travaille, qui est au SMIC, c'est pas le cas dans nos entreprises, parce qu'on n'a pas de gars au SMIC, on a que des gars qui sont mieux payés. Donc c'est pas une histoire de salaire, mais le gars qui est au SMIC en France, il a du mal à vivre. Nous, le salaire moyen dans nos métiers, dans le bâtiment, on est entre 2000 et 2200 euros net par mois. Et il y en a beaucoup plus à 2005 et à 3000. Voilà.
C'est une réalité.
Ça, c'est une réalité. Et on trouve personne. Donc c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire qu'ils veulent pas travailler. C'est que sans travailler et en travaillant à côté au black, ils gagnent plus d'argent. Nos régions sont les pires parce que nos régions sont saisonnières, donc c'est pire. Moi, quand je suis arrivé, on avait la moitié de saisonniers dans nos entreprises, parce que travailler à la station l'hiver, et l'été, ils étaient obligés de venir travailler dans nos boîtes. Aujourd'hui, ils ont le chômage. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent travailler chez nous? Le système est mal fait. Et le système est devenu pervers. C'est pas une histoire de motivation, c'est qu'ils gagnent plus d'argent à pas travailler, donc ils peuvent pas venir dans nos entreprises. Voilà.
C'est vrai que le statut saisonnier, c'est ce que dit Guillaume, ça en rajoute encore à cette ambiance. C'est-à-dire, s'il travaille 4 mois et 10 jours en station, effectivement, pendant
les 8 mois
moins 10 jours qui restent, ils peuvent effectivement ne pas travailler. Et ça concerne beaucoup de monde.
Alors, vous vous rendez compte que si on enlève ça, ça voudrait dire que, en fait, on réduit le chômage ou on arrête les aides de manière à motiver les gens pour aller bosser.
Ben, moi, par exemple, je regarde les pays européens assez proches de nous. Donc les pays nordiques ont tous fait des gros efforts. Le Danemark, la Suède, qui était plus, il y avait encore plus de social en Suède qu'en France. Aujourd'hui en Suède, je suis bien placé pour le savoir, j'ai eu un entraîneur suédois. J'ai voulu le mettre au chômage, il a dit non, si tu me mets au chômage et qu'il me propose un emploi, je suis radié à vie du chômage. À vie. Vous vous rendez compte? On leur propose un emploi en Suède, ils refusent, ils sont radiés à vie du chômage. Bah, faites ça en France, vous verrez que les jeunes viendront travailler, les jeunes et les moins jeunes. Mais au Danemark, c'était 2 ans comme nous, c'est passé à 6 mois. C'est tous les pays d'Europe qui ont fait des efforts, et nous, c'est jamais transposable en France.
Bah oui, parce que là, on a un vrai problème de mentalité. Je voudrais seulement rappeler ce qui s'est passé il y a quelques semaines, lorsque Macron était en train de se balader dans la rue et qu'il a dit « Mais du boulot, il suffit de traverser la rue et vous allez en trouver du boulot. » Et ça a fait un tollé général, mais général, moi, à droite, à gauche.
Moi j'étais content quand il a dit ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, je pense qu'ils font rien parce qu'ils achètent la paix sociale. Ils se disent que s'ils font quelque chose, mais de toute manière, c'est l'économie qui règle les choses, il faudra bien le faire un jour. Moi, je pense que Macron, il peut pas faire ça. Il en a déjà fait beaucoup, beaucoup fait, puis ça grogne. Donc, je pense qu'il va attendre peut-être d'être réélu et de faire ça sur son deuxième mandat. Mais de toute manière, il sera obligé de le faire. Et si c'est pas lui qui le fait, j'en connais pas un autre aujourd'hui qui est capable de faire ça.
Mais tu parlais de migrants tout à l'heure. Donc, tu as embauché, tu as formé. On parle bien des migrants.
Ouais, de Briançon, parce que le premier qu'on a, Saïd, c'est le premier qui est arrivé à Briançon.
Quelle origine alors?
Ghanéen, Saïd. Et le deuxième, c'est un pays un petit peu compliqué, c'est Conakry.
Oula,
Guinée-Conakry.
Et pourquoi ils sont venus, eux deux? Tu connais leur histoire ou pas?
Oui, je connais un petit peu. D'ailleurs, maintenant, le deuxième, il joue dans l'équipe de foot d'Argentine et on parle que de lui parce qu'ils ont battu Aix en Coupe Gambardella.
Et oui.
Alors, le premier, c'est une assos qui nous l'a amené et puis il n'avait pas de papier. Donc, ce qui est compliqué en France, c'est qu'ils n'ont pas de papier. Donc, tu ne peux pas leur faire de contrat de travail parce qu'ils n'ont pas de papier. Et pour qu'ils aient des papiers, il faut leur faire un contrat de travail. Donc, bon, nous, on a détourné un petit peu le système. Il était au bout d'un an et demi chez nous. Et il a reçu un courrier de la préfecture. Il devait être envoyé dans son pays. Donc, moi, j'ai appelé mon ami Joël Giraud. Je lui ai dit, écoute, il travaille. Tu peux renvoyer des Français qui ne travaillent pas, ça ne me gêne pas. Mais des jeunes qui travaillent, qui viennent de n'importe quel pays, il faut les garder. Donc, il a fait le nécessaire. Il a eu un permis de travail pour 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, le deuxième migrant qu'on a, il a un permis provisoire. Voilà. Parce qu'il y a la convention de Genève, quand ils arrivent, tu ne peux pas les faire travailler pendant 9 mois. Ils ont ramené à 6 mois, je crois. Donc c'est aussi une assos qui nous a ramené ce jeune, qui a un peu plus de mal à s'adapter que Saïd, mais bon, ça va aller. De toute façon, c'est des jeunes qui ont envie, qu'on forme à la menuiserie, parce que Saïd, le premier, il a un brevet professionnel quand même. Donc CAP-BEP, brevet professionnel.
D'accord.
Donc c'est quand même le du haut niveau dans le bâtiment. Maintenant, il fait marcher un robot chez nous. Donc pour moi, c'est un système d'intégration. Je ne suis pas là pour parler des migrants, mais quand on... Il y a 100 migrants à Briançon, si chaque boîte en prenait un ou deux, le problème des migrants, il serait réglé.
Ouais.
C'est vrai que s'il y en a 1000 ou 2000, c'est plus compliqué. Mais s'il y en a 100 à gérer, on va le gérer.
Oui, mais enfin, c'est dommage d'aller chercher des migrants alors qu'on a des j'allais dire, enfin, ne le prenez pas mal, hein, ce que je dis, hein, ça n'a rien à voir, hein, attention, hein. Je dis, ce qui est bête, c'est de prendre des migrants qui eux ont envie, alors qu'il y a peut-être des Briançonnais qui eux ont pas envie, en gros, c'est ça le message.
Ouais, mais nous, on prend ceux qui ont envie, hein.
Bah oui,
on regarde
bien sûr.
Pas la couleur ou d'où,
non, j'ai bien compris.
D'où ils viennent, on prend ceux qui ont envie. Et puis bah, de toujours, enfin moi je suis pas très vieux, mais de toujours, il y a des gens qui se sont intégrés en France. En 43, il y a 50 000 Espagnols qui sont arrivés, on les a intégrés en 8 jours. Bon, ça a fait des vagues. Des Italiens, voilà. Il y a toujours eu des gens qui se sont intégrés. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui ça fait des vagues, il y en a peut-être beaucoup, ils arrivent peut-être beaucoup à Briançon, moi je suis pas là pour juger tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même moyen d'intégrer une centaine de jeunes. Voilà.
Je vous l'avais dit qu'il fallait inviter Guillaume.
Oui,
vous entendez dans son discours une position très dure sur le système français de l'emploi,
oui,
et tout,
oui. C'est très intéressant.
Qui pourrait laisser à penser à certains que voilà. Et de l'autre côté, Guillaume nous renvoie l'idée de l'intégration des migrants.
Oui, bien sûr.
Donc,
non,
on est quand même dans une totale réalité qui est efficace. Donc voilà, je voulais faire.
Oui, mais en plus, c'est le réalisme pour Briançon, puisque quand on demande, on voit les Briançonnais, on essaie tous, on a tous des amis qui cherchent du boulot et compagnie. Ils n'ont qu'une ambition, et on l'avait bien compris lorsqu'on avait invité le directeur de la Compagnie des Alpes. Une seule ambition, c'est de rentrer à la CDA. Si vous leur dites, oui, mais la porte à côté, ah non, non. La porte de gauche, la porte de droite, ils n'en veulent pas. Ils veulent la Compagnie des Alpes, point. Il y a un employeur dans le Briançonnais, voilà, c'est ça. Et les autres ont du mal. Enfin, dans tous les milieux du BTP, c'est pas possible.
Alors, on va parler évidemment des gilets jaunes. Sujet de la semaine, on s'en doutait bien que ça ne s'arrêterait pas samedi soir. Hein. Tout le monde allait rentrer chez lui. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Comme ça a été plutôt une belle réussite samedi, pourquoi pas remettre le couvert dimanche, ce qui a été fait, et puis pourquoi pas lundi, et puis mardi, mercredi, et puis on parle de monter sur Paris. Du coup, dimanche soir, le premier à monter au créneau, ça n'a pas été le président Macron, non, ça a été Édouard Philippe. Voilà ce qu'il a dit.
J'entends ce que disent les Français. C'est très clair. Le mouvement des Gilets jaunes, il s'est exprimé de façon très claire. Donc j'entends ça. Mais je dis aussi que un gouvernement qui changerait de pied en permanence, qui zigzaguerait au gré des difficultés, il ferait ce qu'ont fait beaucoup trop de gouvernements par le passé, et il ne conduirait pas la France là où elle doit être conduite. C'est à la fin du quinquennat. On verra si effectivement les engagements que nous avons pris, ils ont été tenus, et s'ils ont produit les résultats. Et, monsieur Delahousse, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de conviction et beaucoup de détermination, ils vont produire des résultats.
Alors, Guillaume, je m'avancerai pas beaucoup en disant que tu es plutôt d'accord avec le discours.
D'accord. Moi, de toute façon, je suis contre la manifestation.
Je valide.
Je suis contre la manifestation. J'ai jamais manifesté de ma vie, j'ai pas été élevé comme ça. Moi, je suis contre les syndicats en France, ils ont mis la France par terre. Aujourd'hui, on vote démocratiquement, personne ne nous force à voter. Bon. On vote pour des gens, et puis quand les gens sont en place, on est contre eux, on est contre ce qu'ils mettent en place. Moi, on a voté pour ces gens-là, enfin, moi je dis, ils sont passés. Ils ont essayé, pour moi, de ce que je vois, des gouvernements, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande, qui pour moi n'ont rien fait, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Je pense que le gouvernement actuel, il essaye de faire des choses. Moi, j'en parle souvent avec mon ami Joël Giraud, qui est dans ce gouvernement. Ils essayent de faire des choses, ils font des choses. Les résultats sont pas automatiques. Regardez aujourd'hui les États-Unis. Trump, il fanfaronne, mais c'est le travail d'Obama. C'est vraiment tout le job d'Obama. Aujourd'hui, on voit pas les résultats parce que c'est très long. Mais pour moi, ils font des réformes. Moi, j'en ferai plus. Je l'ai dit tout à l'heure, je ferai la réforme du chômage. Bon, c'est sûr que la France, ils aiment bien manifester, on aime bien être dans les rues. Moi, cette semaine, hier, j'étais bloqué à Annecy-Chambéry. Je peux vous dire que les gars que j'ai vus au péage à 10h du matin à boire de la bière, c'est pas des travailleurs, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, ça va devenir un mouvement. On va retrouver des zadistes, on va retrouver n'importe qui, n'importe quoi. Voilà, et ça, c'est la France. Et aujourd'hui, pour moi, il faut sévir parce que. Qu'on fasse le samedi, je comprends. On peut rester chez nous le samedi, il n'y a pas de problème. Mais qu'on empêche les gens de travailler dans une période comme en ce moment en France, je trouve ça totalement anormal.
On va vers une radicalisation du mouvement ?
Mais comme toujours en France, puisqu'en France, on dit ne faut pas les toucher, faut rien faire, faut rien leur dire. Ils ont le droit de casser les magasins, ils ont le droit de faire ci. Les CRS n'ont pas le droit de bouger, on a le droit de brûler les voitures des flics, on a le droit de leur mettre le feu. Ça, c'est la France. Je ne dis pas que c'est la faute du gouvernement de maintenant, c'est la faute. On n'a rien fait pendant 40 ans. Nous, autour de la table, si demain on prend notre voiture et qu'on rentre dans une boutique, qu'est-ce qu'on va nous faire ? On va nous incarcérer. Bon, ces gens-là, s'ils bloquent un péage illégalement, on les arrête. C'est pas compliqué. Ils laissent des palettes autour des ronds-points, ils laissent du feu, c'est dégueulasse. C'est pas normal. C'est ça qui est un peu triste en France aujourd'hui, c'est une forme de laisser aller.
Alors, Edouard, oui, tu voulais parler, pardon.
Oui.
Excuse-moi.
Je voulais parler sur le sujet de la journée de samedi.
Oui.
Moi, j'étais à New York.
Alors, il n'y avait pas de gilets jaunes.
Mais non, mais
il y avait taxi jaune.
Je me suis branché sur BFM TV.
Oui.
C'est la première fois que je regardais BFM TV longuement. Bon, c'est pas. Voilà. Mais sincèrement, samedi. J'ai perçu de la misère. Et ça, bon, on n'est que ce qu'on est.
Oui. Hein.
J'ai entendu des gars dire qu'ils travaillaient. Mm-hmm. C'est des mecs. Pourquoi la manif, elle avait lieu le samedi ? Parce que c'est des mecs qui bossaient. Mm-hmm. Le gars qui dit : moi, je suis né qu'une cuillère en plastique dans la bouche. Voilà. Il y avait beaucoup d'images, hein, de choses comme ça. C'est des gens c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres. Mm-hmm. Et pour moi, c'est le comble de la misère dans une société moderne. Et que ça mérite quand même qu'il y ait une réponse à ça. Pour les mecs, les gens qui travaillent. Et qui sont au bout, qui vivent avec 20, je sais pas quoi, au bout de 2 semaines, ils n'ont plus un rond. Ça existe, c'est les gens qui bossent. On revient sur le sujet de tout à l'heure du chômage. Je pense que c'est quand même un problème de fond à régler, et que cette misère qui s'est exprimée samedi, il faut quand même, enfin, je sais pas comment il faut l'entendre, mais on peut pas dire qu'ils sont naïfs, ici, gna gna. Il faut quand même l'entendre. Il y a eu vraiment, pour moi, l'expression de la misère. Et je voulais dire une deuxième chose qui confirme ce que dit Guillaume. Moi, hier, j'ai passé le péage à Grenoble. J'ai vu une quinzaine de mecs complètement excités, cadrés par 50 gendarmes, mais qui venaient foutre le bordel, il n'y a pas d'autre mot. Et je suis complètement d'accord avec Guillaume. Ces gens-là auraient soulevé les barrières de manière illégale. Là, ils étaient couverts par ce mouvement, entre guillemets. Et c'est un peu une débauche d'imbécilité aussi. Là,
oui, mais là, on sent un changement. C'est vrai que moi aussi, samedi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment dans un désarroi épouvantable. Mais là, il y a un changement de manifestants, là, quand même, depuis deux, trois jours. Depuis deux jours.
Hein. La plus belle preuve.
C'est plus les mêmes.
Hein. La plus belle preuve, c'est qu'on a eu quelqu'un qui, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, a demandé aux Gilets jaunes de monter sur Paris, donc en fin de semaine. Il se trouve que cette personne est apparentée debout la France. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est vrai que on sent qu'il y a une certaine récupération qui va se faire.
Inévitable. C'est
inévitable. Autant samedi, comme tu le disais, c'était très spontané. Et moi, j'y étais pour faire quelques reportages pour Alpoint. Et on l'a bien senti, ça. On l'a bien senti. Il y avait des personnes qui étaient là. Des retraités qui étaient là.
Oui, voilà. Des gens de tout âge. Des dames qui n'ont jamais manifesté. Des cheveux blancs. Voilà. Là, c'est plus tout à fait le même cas.
Je vais vous faire écouter d'ailleurs quelques manifestants que j'ai rencontrés samedi matin. Tenez, écoutez.
Répondre à deux questions.
Oui.
Vous êtes là pour combien de temps encore ?
Sur un temps indéterminé, monsieur.
Ouais. Et vous êtes là pour quoi exactement ?
Sur la base du principe, on était sur les taxations du carburant. Et puis aujourd'hui, on va dériver sur l'ensemble des choses, l'ensemble des taxes dont on ne nous écoute pas depuis des années.
Et vous attendez quoi concrètement de Macron à partir de demain ?
Qu'on entende surtout le peuple aujourd'hui.
Oui.
Voilà, aujourd'hui on est des citoyens, pas des esclaves, monsieur.
Allez chercher votre gilet jaune.
Moi je suis là pour travailler. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là ?
Le ras-le-bol, il y en a marre.
C'est que payer, que payer, que payer. À l'instant-là, M. Macron se permet de charger la vaisselle à l'Elysée. Se permet de se faire mettre une piscine à côté de la mer. C'est scandaleux. Il se promène à 15 bagnoles et il nous dit à nous qu'il faut qu'on reste à la maison.
Le diesel.
Hey, ces grands messieurs, à 10 000 euros par mois, ils n'en ont rien à foutre que les retraités nous tapent dessus en disant qu'il faut qu'on travaille pour les jeunes. Mais nous, on a travaillé, on a fait. On n'était pas aux 35 heures. Hein.
Monsieur, qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui au gouvernement ?
Monsieur Macron, ce qu'on vous demande, c'est de regarder un peu les gens qui s'en foutent plein les poches. Et ils ne sont pas contrôlés comme il faudrait les contrôler. Il y a beaucoup de gens qui se baladent avec des grosses bagnoles, qui vont se servir dans les restaurants pour les pauvres et viennent en Mercedes ou en grosse bagnole, et souvent les étrangers qui nous prennent pour des cons. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Voilà, non mais c'est un florilège que je vous ai sorti. C'est les gens qui, il y avait de tout. Il y avait des personnes qui étaient très en colère contre ça, d'autres
oui,
contre.
Oui, mais c'est le côté naïf, que c'est le mot que j'ai entendu, bon enfant naïf, dont on arrive à se moquer facilement aussi.
Mais bien sûr, mais tout à fait.
C'est ça qui est compliqué dans cette histoire.
C'est très compliqué, c'est très compliqué. Mais bon, cela dit, on sentait, comme tu disais, un gros désarroi de la part de certains qui étaient. Approche-toi du micro.
Oui. Indiscutable, c'est vrai. Samedi, je reviens à samedi.
Oui, c'est voilà. Samedi. Voilà.
Il me semble que ce qu'on a vu à la télévision ou qu'on a vu sur les routes, c'est plus tout à fait les mêmes caractéristiques des gens de samedi. Il y a moins de cheveux blancs, il y a des grands gaillards, et puis les insultes fusent beaucoup plus à tous les ronds-points. Alors que samedi, pas du tout, pas du tout.
La question qui se posait aujourd'hui, c'est est-ce que peut-on craindre que les routiers rejoignent le mouvement des Gilets jaunes ? Ça, c'était la grosse inquiétude qui transpirait depuis le début de semaine.
Je pense qu'ils sont exprimés en disant que c'était pas trop leur combat.
Normalement.
Vous savez, hier, je faisais la route et je me suis amusé. Faut bien se trouver une occupation quand on roule. Moi, je m'ennuie en voiture.
Tu comptais les maillots ?
Voilà.
Dans les voitures ?
J'étais à 1 sur 30. Bon, voilà, c'est tout.
Ouais. Moi, j'ai compté ce matin en venant donc à Briançon, j'étais un peu plus, j'étais à 10%. Voilà. Donc, mais bon, voilà. Oui, peut-être que ça va perdre un peu, peut-être que.
Je connais des gens qui mettent le gilet pour être tranquille aussi. Hein.
Oui, non, voilà,
ils vont me laisser passer.
Oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas si Guillaume a eu ce problème-là, mais ce que je trouve complètement anormal, c'est que pour pouvoir passer un barrage, il faut mettre le gilet jaune. Je veux dire, mais non, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Oui,
enfin, moi, ça me paraît quand même la moindre des choses.
Faut que je réponde là.
Oui, c'est ça. Mais tu n'as pas eu de problème là-dessus. Donc c'est
si,
pas
si, j'étais embêté hier toute la journée. J'ai des camions qui ont été embêtés. Et quand j'ai vu les gars boire des bières devant les gendarmes, ça m'a vraiment énervé. Et je peux vous dire que je ne me suis pas arrêté. Et je comprends qu'il y ait des accidents, mais ça me rend hors de moi.
Ce qui est grave, c'est qu'il y a, on est à un peu plus de 600 blessés, une dame morte, il y a 17 personnes qui sont entre la vie et la mort.
Oui.
Alors, et puis en plus, on pose pas la question aller dans la vallée de l'Arve. mettez vos enfants à l'école dans la vallée de l'Arve, ils peuvent plus sortir. Un jour, il faudra moins de voitures, il faudra moins de camions, il faut mettre les camions sur les trains, il faut réfléchir autrement. Aujourd'hui, ils ont enlevé une subvention pour, une réduction d'impôt pour changer les menuiseries. Ça, pour moi, c'est embêtant parce que si les gens ils changent les menuiseries, si les gens refont leur isolation, on va dépenser moins de pétrole. On aura besoin de moins de centrales nucléaires, je veux dire. Aujourd'hui, vous avez des centrales nucléaires, Fessenheim, ça coûte. Il y en a une, la nouvelle, là, qui c'est pas Fessenheim, c'est. On est à 22 milliards, elle ne tourne toujours pas. 22 milliards.
Oui, exact.
22 milliards. Vous savez combien vous refaites d'isolation en France sur 22 milliards? Vous refaites tout Paris. Tous les toitures, gratuit. Hein. Les gens, ils payent pas, gratuit. Il faut peut-être se poser les bonnes questions. Au lieu de refaire des centrales, peut-être réisoler. Peut-être moins. Il faudra moins de voitures. On le sait qu'il faudra moins de voitures. Moi, je vois à Paris, ils font des mesurettes, mais à Paris, tu fais comme à Londres. C'est interdit les voitures. C'est fini. Vous stockez les voitures avant. Faut arrêter de toujours mettre plus de camions. Vous avez vu sur les autoroutes le nombre de camions?
Oui.
Et sur les trains, il n'y a pas de camions? Sur les péniches, il n'y a pas de camions?
On s'est raté pour le.
Voilà.
Les transports. Oui. On avait un réseau ferré extraordinaire.
La vallée
les gens.
La vallée de Chamonix, samedi, il n'y avait pas beaucoup de gilets jaunes. Hein. Quand vous sortez là-bas, c'est tellement pollué, je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gilets jaunes. Donc il y a peut-être d'autres solutions à trouver que de.
On va terminer avec une dernière question qui revient régulièrement quand il y a ce genre de manifestation. Les médias à la solde du gouvernement. Vous l'avez dû certainement l'entendre, ça. Hein. C'est de plus en plus ce message que fait passer la fachosphère sur les réseaux sociaux. Message de plus en plus relayé. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ce déferlement, justement, de haine sur les réseaux sociaux? Est-ce que, Guillaume, tu es sur un réseau?
Non,
ou pas
sur aucun.
Zéro.
Non.
Tu ne vas jamais jeter un
jamais
petit coup d'œil.
J'aime pas aller voir la vie privée des autres et j'aime pas qu'on regarde
non
la mienne.
Non, mais sans aller.
Je regarde pas. Il y en a, ils me disent sur Facebook, ils ont dit ça sur toi. Alors, ils disent jamais ça pour leur tourner Bérou, ils disent toujours ça pour le hockey. Mais non, c'est pas mon truc. Puis j'ai c'était pas ma génération avant. Il y en a qui ont pris le pas. Moi, j'ai pas pris le pas. C'est vraiment pas mon truc.
Mais le média à la solde du gouvernement, les médias à la solde du gouvernement, c'est-à-dire que BFM, en fait, donc est payé par le gouvernement, France Inter, enfin, toutes les radios de Radio France, Europe 1, RTL, TF1, etc. C'est une réalité aujourd'hui.
Oui.
J'ai eu une discussion hier soir, justement, par Facebook interposé sur le sujet. Ça me déprime énormément, quoi, parce qu'on a vraiment l'impression que vous pouvez avancer tous les arguments que vous voulez, il n'y a rien à faire.
Oui,
voilà.
les gens qui disent qu'ils sont à la solde du gouvernement, il y a 10 ans c'était la même chose, il y a 15 ans c'était la même chose, il y a 20 ans c'était la même chose.
Oui, ce qu'on pourrait rappeler, c'est qu'il y a eu un ministre à l'époque, dans les années 60, sous De Gaulle, qu'on met souvent sur un piédestal aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelait un ministre de l'information.
Tout à fait.
Qui validait tous les jours le journal de l'ORTF.
Qui s'appelait Monsieur Missoffle.
Oui, il y en a eu plusieurs.
Je pense pas qu'il y ait un ministre aujourd'hui qui valide la une du Canard Enchaîné.
Ben oui, non,
ou de Mediapart.
C'est sûr. Hein. Ou même de France Télévisions ou de TF1, ce que vous voulez. Alors après, on peut dire qu'il y a peut-être de l'information qui sera édulcorée. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai quand même.
Parce que les gilets jaunes qui voient des journalistes arriver comme toi,
oui.
Ils voudraient quoi? Ils voudraient que tu dises au micro ce qu'ils braillent dans la rue.
Ah ben, c'est moi, j'ai tendu mon micro.
Je vous ai fait écouter
tout à l'heure, j'ai rien inventé.
Toi, la presse, vous avez un devoir de modération, quand même, un devoir de synthèse. Vous ne pouvez pas exprimer au micro, dans le papier, tout ce qui est dit, toutes les horreurs qu'on puisse entendre, les insultes et machin.
C'est sûr qu'il y a quelques fois. Là, c'était brut de décoffrage, hein, puisque moi, je suis arrivé avec mon enregistrement, j'ai lancé l'enregistrement et j'ai mis l'enregistrement tel quel le matin donc sur le site alpe1.com et sur le Facebook. Donc c'était brut de décoffrage, les personnes ont dit ce qu'ils avaient envie de dire, j'ai laissé ma voix exactement comment ça s'est passé. Je me faisais engueuler par une bonne femme qui me disait ouais, mettez votre gilet jaune. J'ai dit mais j'ai rien à foutre de mon gilet jaune, moi je suis venu bosser. Donc je suis en train de bosser, voilà, répondez à mes questions si vous voulez ou pas. Voilà. Donc non, là il y avait vraiment alors oui, mettre un filtre. Alors, on est modérateur sur le site donc d'Alpe 1. On est obligé de modérer parce qu'il y a tellement de saloperies qui sont dites sur les réseaux sociaux qu'on est obligé de modérer. Mais au niveau de l'information, non, on modère pas ce qu'on fait sur l'antenne d'Alpe 1. Bah, c'est de l'info, voilà. On a une rédaction et il n'y a jamais personne qui vient nous dire il faut dire ci ou il faut pas dire ça.
Oui, prenons le cas de Mediapart.
Alors nous, c'est une petite radio, d'accord, mais n'empêche que Et n'empêche que 30 000 auditeurs, voilà.
On peut prendre le cas de Mediapart, puisqu'on vient de l'évoquer. Tout le monde sait que Mediapart a 90% de subventions, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans les ronds-points et en dehors des ronds-points payent pour Mediapart. Oui. Ça ne les empêche pas, ils ne sont pas très généreux non plus avec le gouvernement. On ne peut pas dire que Mediapart et qu'Edoui Plenel est à la solde de...
Ce serait peut-être donc les seuls, puisque ils n'ont pas donc ils ne sont pas impactés par par le gouvernement financièrement, ce qui est complètement faux d'ailleurs, puisque c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'ils touchent 90% des subventions.
Ils touchent des subventions, le Canard Enchaîné ils en touchent, mais tous les journaux papier en touchent aujourd'hui.
Mais oui.
Et même la presse écrite, tout le monde veut toucher ces subventions. Vous avez pendant la présidentielle, c'était ça, RMC, le patron d'RMC, c'est le copain de Macron.
Bon. Ouais.
Et alors, RMC, vous écoutez le matin Bourdin et compagnie, et puis les grandes gueules, ils sont pas trop cool avec Macron en ce moment. Je pense que la presse soit à la solde du gouvernement. Il y a peut-être des choses qu'on voit un petit peu moins qu'avant, c'est-à-dire que avant on voyait dans les journaux, on voyait les voitures qui brûlaient un petit peu dans les villes de partout, donc ça faisait de la surenchère, je pense.
Ah oui.
Et aujourd'hui, ben ils font peut-être moins voir ça parce que ça évite la surenchère. C'est vrai que plus on fait voir des voitures qui brûlent, plus ils vont en brûler.
Et c'est pas con, voilà. Effectivement, ouais. D'arrêter de montrer ça.
Voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça.
Mais pour faire avancer.
Pour le reste, les journalistes qu'on a cités là, je les vois pas du tout à la solde de
pas quelconque. Du tout. Ils sont quand même indépendants.
Mais bien sûr.
À mon avis, ils sont bien plus indépendants maintenant que sous Mitterrand et sous De Gaulle, je peux vous le dire.
Sous Mitterrand, ça rigolait moyen. Hein.
Ça rigolait moins. On n'a pas su en 14 ans qu'il avait une deuxième femme à l'Elysée, donc je peux vous dire qu'aujourd'hui.
Alors qu'il y en avait beaucoup qui le savaient, mais qui ne disaient rien.
Voilà.
Non, parce que c'était le parrain. C'était le parrain. C'est sur ces bonnes paroles que l'on va se quitter. C'est dommage, on pourrait rester encore longtemps à discuter. Ah oui, j'allais oublier.
Ah ben alors.
Jean-Paul, je suis désolé.
Non, alors, toujours.
Alors c'est Alain Proust.
On va parler de Marcel Proust.
Parce que Marcel Proust.
C'est Guillaume qui m'a suggéré l'idée.
Un petit clin d'œil pour Alain Proust.
Voilà, alors pour mieux le connaître, quel est le principal trait, Guillaume, de ton caractère? On dit de certains qui sont enjoués, sale caractère, l'entêtement. Toi, c'est...
Moi, je suis plutôt taiseux, sauf quand je viens à la radio.
C'était sympa, franchement.
Oui. Il a bien parlé.
Mon surnom, en général, c'est le bourru. Voilà.
Très bien. Quel est le trait de caractère, ton trait de caractère dont tu es le moins fier? Par exemple, l'impatience, la brutalité et autres.
Je suis un petit peu impulsif, mais c'est en train de me passer avec l'âge.
Ah oui, il faudra encore pas mal de temps à mon avis. Hein. Celui, le trait de caractère que tu détestes chez les autres. Exemple, la radinerie, la brutalité,
la mesquinerie.
Ce que je déteste chez les autres, c'est l'intolérance. Voilà. L'intolérance. Moi, je suis tolérant et j'aime pas l'intolérance.
Ah très bien. On parle tout à fait dans un autre domaine. Sur une île déserte, qu'emportes-tu? En dehors de ta superbe femme.
Il n'a pas voulu se fâcher.
Ce serait déjà pas mal, mais sur une île déserte seule.
Un kayak,
un paléo
kayak. Je fais pas de sport.
Ah oui, non, mais ça c'est quand même aberrant.
Pas du tout de sport.
Pas sérieux.
Pour un président, Churchill et Chirac, no sport. C'est non, pour expliquer ma longévité.
Bon,
il me faudrait un petit téléphone pour regarder les résultats de courses de chevaux, par exemple.
Des courses de chevaux et du hockey, quand même.
Et du hockey, voilà.
Des diables rouges.
Voilà.
Le casting d'un dîner idéal chez toi. Qui voudrais-tu, mort ou pas mort, vivant ou mort?
Sympa,
qui aimerais-tu inviter?
Moi, je suis fan de Jean Gabin au cinéma, donc très j'aurais bien aimé dîner avec Jean Gabin. En fait, je regarde que ses films au cinéma et à la télé, je regarde que ça, je regarde rien d'autre.
Donc voilà. Jean Gabin.
Voilà.
Et d'autres personnes ou pas?
Jacques Brel, j'aurais aimé pouvoir le côtoyer. Parce que moi, je vis un peu dans le passé, en fait. La musique, les films, je suis toujours un peu dans le passé.
Alors, moi, je sais que je ne fais pas partie du questionnaire, mais si tu me poses la question, moi, je dirais Sophie Marceau. Hein. Si tu m'écoutes, c'est quand tu veux. Hein. Guillaume, un petit dîner.
Encore 3-4 questions. Une rencontre qui t'a marqué? Ça peut être le domaine du théâtre, du spectacle, de autre.
Une rencontre qui m'a marqué, je suis ami avec Jean-Michel Bazir, le plus grand professionnel aux courses de trotteurs, qui est number one depuis 20 ans en France, donc c'est le Zidane des courses. Et bon, quand je l'ai rencontré, c'était une super rencontre, maintenant c'est mon pote, donc voilà.
On va citer un autre nom, Je suppose que tu connais et tu vas réagir. Louis Chiorino.
Oui,
ça,
c'est
ça
vrai.
Dit quelque chose.
C'est vrai que j'aurais pu citer Louis. Louis, ben, il est compagnon menuisier comme moi, je suis compagnon charpentier. Louis, c'est en plus d'être compagnon, c'est mon pote. Quand je suis arrivé à l'Argentière en 97 à la maison des compagnons, donc j'étais responsable de la maison. Lui, il n'y avait pas de prévôt à l'époque, pas de d'amotesse, pas de maire. On était tous les deux. On gérait la maison tous les deux. Et on a passé de super moments. J'étais invité à tous ses anniversaires. On a été très souvent à son musée. J'ai encore été le voir l'autre fois. Et là, il est parti à Valence chez sa petite fille. Et j'ai une pensée pour lui. Mais il va bientôt revenir parce qu'il a acheté
une résidence
à Domitis. Là.
À Domitis, oui. Voilà. Votre luxe, ton luxe, pardon. C'est une ville, un surf, voyager, une course de chevaux, la télé, un livre.
Un petit plaisir.
Mon luxe, bon, j'adore jouer au golf. Voilà, bon, c'est un petit sport, mais bon, je joue au golf et j'adore les shows de course. Voilà.
La musique de ta vie ou les musiques de ta vie?
Les musiques, c'est Barbara, Brel, Brassens, voilà, c'est des vieilles musiques. Quoi.
C'est bien le créneau que tu as.
Voilà. C'était 3B.
Est-ce qu'il y a une ville qui te ressemble? Je dis bien la ville qui te ressemble.
Une ville qui me ressemble, si je n'étais pas venu à Briançon, j'aurais été à Strasbourg, parce que j'adorais cette région. C'était très propre, les gens bossaient beaucoup, contrairement au reste de la France, c'est une autre mentalité. Et
c'est bien, tu en passes une couche, c'est parfait.
Voilà. Les Alsaciens sont des gens charmants, travailleurs, tout est magnifique, rien de délabré. Et ouais, c'est un endroit qui m'a marqué, l'Alsace. Ouais.
Et puis il y a du Klugoff.
Ah oui, ça.
Du Kouglof, pardon.
Écoute, ça tombe bien, puisque dernière question, ta Madeleine de Proust.
Ah bah.
C'est la crêpe de ta grand-mère, c'est le Kouglof, c'est. Vas-y.
Ma grand-mère, elle faisait des patates sautées extraordinaires.
Ah, ben voilà. Eh ben merci.
Eh ben voilà, merci. Ça sera donc le mot de la fin. Merci Guillaume Lebigot d'avoir participé à ce Coq à l'âne. Merci Jean-Paul. Merci Philippe. On se retrouve dans une quinzaine, hein. Eh oui, dans une quinzaine. Passez un bon dimanche et rendez-vous donc la semaine prochaine.